Alors on va continuer ce soir. Je pense que dans le je vais parler un peu de, non pas de façon directe, mais de ce qu'on n'arrête pas d'entendre là, actuellement sur la question du de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme. Pour autant qu'on est tous des semblants d'hommes et des semblants de femmes, et que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que ceux qui parlent, ils savent très bien ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Donc ça pose des problèmes, en fait. Hein, c'est pour ça que le moindre mot va prendre des proportions extraordinaires. Bon, alors on avait fini la dernière fois sur la question de l'universel. Je proposais que l'universel, c'était quelque chose du corps. Mais alors, justement, pas du corps anatomique. C'est-à-dire du corps qu'on peut voir, qui bien sûr qui a une valeur importante. Hein, c'est autour de tout ça que touche ce qui apparemment rapproche ce que l'on peut appeler un semblant d'homme et un semblant de femme. Je dis semblant parce que, évidemment, ce que j'essaie de dire depuis plusieurs années, à la suite de Lacan, c'est que c'est le langage qui dirige, c'est pas la vision. C'est pas ce qu'on voit. C'est le langage, et quand le langage fonctionne, évidemment, c'est pas le langage, c'est pas fait pour utiliser des mots. Hein. Parce que là, on retombe sur la perversion du langage, la perversité du langage. Et on voit ce que ça donne actuellement. Quand le langage fonctionne, ben on est dans le champ de l'équivoque, on ne sait pas bien ce qu'on dit. Voilà, on ne sait pas ce qu'on dit. Et l'intérêt, c'est de ne pas savoir ce qu'on dit. Et je proposais la dernière fois, quand je disais quand je parle, évidemment, habituellement, c'est « je », première personne, « parle hein? ». Première personne. Évidemment, c'est comme ça qu'on... On peut penser comme ça, pratiquement. Alors qu'on dit en même temps, c'est ça l'équivoque, on dit en même temps aussi quand le « je » parle, troisième personne. Et que la découverte de la psychanalyse... Hein, c'est que ce que Freud, en arrivant au début du XXe siècle aux États-Unis, dit qu'il leur apporte la peste. Hein. Eh bien, ce qu'il en est de la découverte de la psychanalyse, et puis par le biais de la psychanalyse, c'est quelque chose d'insaisissable qui s'appelle l'inconscient, enfin qui a été nommé inconscient par Freud, sans trop savoir ce qu'il disait d'ailleurs, par ce terme-là. Bien sûr, ce n'est pas le non-conscient. Et oui, tout système dualiste d'anglais, ça ne va plus, quoi. D'un côté les hommes, de l'autre côté les flammes, vous voyez, les femmes. Hein. D'un côté le conscient, de l'autre côté l'inconscient, ça ne va plus. Ça ne va pas. J'ai fait un lapsus qui est tout à fait évocateur, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, mais ce que je veux dire, on montre bien qu'il y a quelque chose qui est flou. Et la langue, comme elle est riche, là, quand on se met un peu à l'écouter, c'est quand même autre chose que ce qu'on entend habituellement. Alors, c'est à partir de cette dimension du langage, bien sûr, qu'il est possible de prendre en compte, d'évoquer, de se mettre en direction de quelque chose qu'on va appeler, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler, le corps. En sachant que, on se réfère à quoi? On se réfère au fait que chaque être parlant, c'est différent pour l'animal. C'est bien plus simple pour lui. Mais c'est aussi plus réducteur. Dès que je parle, il y a trois dimensions. Je déploie, je me déploie, ou le jeu se déploie, dans trois dimensions. Je ne vais pas les reprendre, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on est d'emblée trine. Hein, la trinité... à quelque chose de vrai. Ce n'est pas des idioties. C'était bien trouvé ce truc-là, parce que ça correspond à quelque chose de l'essence de l'être bas. C'est pour ça que ça a marché, évidemment, ça marche toujours. Hein, la religion chrétienne et puis catholique, notamment. Hein. Même si les pratiques sont... On est toujours dans ce cadre-là, dans le cadre qui a été défini à ce moment-là. Bon. Et la question du corps, à partir de là, ben, c'est autre chose que... Donc, ce que l'on voit, c'est autre chose que ce que l'on... On croit que l'on peut étreindre chez l'autre. Ça existe, ça, mais enfin, ça n'existe pas. C'est pas de l'ordre de l'existence, c'est de l'ordre de l'être. On s'étreint, on va dire, hein, soi-même, hein, prenant le corps de l'autre, le corps qu'on voit. Hein. Mais je ne dis pas du tout du mal de ça. C'est important. Hein. C'est important, hein. pas question de dire qu'il ne faut pas que ça existe, hein. C'est pas du tout ça que je dis. Hein. Mais il y a autre chose, voilà. De même, et là je fais un saut rapide, qu'il y a, on pourrait dire, la voix, le sonore de la voix, puis le fait qu'il y a quelque chose de la voix qui n'est pas le sonore. Hein. On pourrait dire, la voix, vous écrivez comme vous voulez, est libre. Du fait qu'elle n'est pas substance sonore. Et la voix, vous l'entendez par exemple dans le silence que je viens de faire. C'est tout à fait autre chose. Ça n'exclut pas que vous pouvez aussi l'entendre quand je parle. Et moi, je ne peux pas la fabriquer. Je ne peux pas la fabriquer avec une méthode. C'est ça la dimension. On s'approche un peu de la dimension du corps. On s'approche un peu de la dimension du corps, pour autant que, et là c'est un peu l'expérience dont j'essaie de parler, qui m'anime, pour autant qu'il y a quelque chose qui peut être trouvé, auquel participe le corps, on va dire le corps, le fonctionnement du corps, mais ça ne suffit pas. Pour comprendre ça, c'est facile à comprendre. Même si on a un instrument phonatoire qu'on va développer, la larynx notamment, même si c'est avec ça, essentiellement, qu'on va fabriquer un bruit qui va devenir du son, auquel il va être possible de donner plus ou moins de brillant, selon la façon dont on peut le produire, même s'il y a tout ça, néanmoins, on reste encore là, un petit peu dans la conception du corps, qui serait comme un instrument, par exemple comme un violon, comme un piano, qui fait aussi du son. Donc, alors on va apprendre à jouer du piano, on peut apprendre à jouer avec l'instrument qu'on a créé. Mais il y a quelque chose en plus qui s'entend chez celui qui entend. Il ne suffit pas d'écouter. Je pense même que plus on veut écouter, moins on entend. Enfin, j'irai un peu dans ce sens-là. Écouter au sens de comprendre, c'est ça que ça veut dire écouter. Hein. C'est-à-dire que écouter, ça veut dire... Ça veut dire qu'on est capable, alors celui qui parle, il est capable de savoir ce qu'il dit, et celui qui entend, il est capable de savoir ce qu'il entend. J'ai fait un lapsus, celui qui écoute, il est capable de savoir ce qu'il écoute. Hein, c'est lui d'écoute, quoi. Hein. Il y a cette dimension, effectivement, du fait d'entendre. Voilà. Et là, ça rapproche. Plus exactement, ça met la poésie, la musique, notamment, en direction de quelque chose qu'avec Lacan on va appeler le réel, notamment qui est le réel de l'inconscient. crois que ça suffit sur le plan des références comme ça, mais c'est important quand même de rester dans un certain cadre qui a été défini aussi, qui a été exploré par d'autres, parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça n'importe comment, hein, dans quelque chose, même si on peut apporter un peu quelque chose d'autre. Et la grande énigme, effectivement, c'est ce qui fait que il est possible qu'une voix qui chante, parce que c'est une voix qui chante, c'est pas une voix qui parle, c'est une voix qui chante, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine pression, une certaine, un certain fonctionnement de l'appareil qui puisse faire entendre quelque chose, que je vais dire comme ça, faute de mieux actuellement, le brillant. Le brillant. En sachant qu'on ne sait pas bien ce qu'on dit, mais on sait qu'on entend quelque chose. Quelque chose qui nous réveille notamment, qui peut être insupportable. Est-ce tout ça, vous voyez, réveil, réel, insupportable, c'est tout un peu du même tabac, quoi. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que on ne sait pas bien ce qu'on entend. Mais on entend quelque chose. Parce que ce qu'on entend, c'est autre chose qu'une substance sonore. C'est-à-dire quelque chose qui peut s'analyser avec des instruments techniques. Hein? Si vous prenez le La, vous avez une certaine fréquence, 440, puis après, etc., 880, etc., bon. Et cette fréquence-là, ça va vous permettre effectivement de définir une note. Et quand vous chantez le La, il est évident que ce qui vient vibrer au niveau du corps, c'est que la commande, le nerf qui vient commander le larynx, il vibre exactement à 440. On ne le sait pas, mais ça se passe à partir du moment où vous pensez à la note. Immédiatement, il y a une vibration qui se met en route. Ça se voit pas, mais ça fonctionne comme ça. Ce qui fait que, comme dans toute chose, il faut tout très légèrement anticiper, et à ce moment-là, la règle qui fonctionne autrement que si vous n'anticipez pas un peu. Et tout ça, ça s'apprend, parce que c'est pas comme ça, c'est pas d'emblée qu'on y arrive. Bon, je pense que l'an prochain, je développerai un peu plus ça, mais enfin, je voudrais un peu continuer là-dessus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le corps dont on parle, dont on essaie de s'approcher, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une substance. Ça ne peut pas se voir. Comme je disais la dernière fois et les autres fois, ce n'est pas de l'ordre de l'image, de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accrocher et rester fixé après. C'est ça que ça veut dire. Et donc penser à partir de là, et penser dans un certain espace qui est limité automatiquement, hein, si on pense comme ça. Alors, ça fait rebondir une question qui est celle de qu'est-ce que c'est que penser. Alors on peut déjà définir, sur un mode, je dirais comme ça, assez simpliste. Est-ce qu'on pense d'abord ou est-ce qu'on parle, est-ce qu'on pense après? C'est pas mal ça, c'est énorme. Hein? Habituellement, on nous a évidemment appris, il a fallu passer, il faut continuer à passer par là, sous peine de, je dirais, de poursuite, hein, on y arrive, c'est sous peine d'un arbitre qui va vous dire non, non, c'est pas bon. Il faut déjà réfléchir. Il faut déjà penser avant de parler. On pense d'abord. Et la psychanalyse, comme je pense la création artistique, c'est-à-dire par exemple le chant, il faut penser, mais on pense à certaines choses, mais c'est très... On ne pense pas à ce qu'on va produire. On pense un petit peu, on ne sait pas bien à quoi quand on chante un aria, mais on pense à quelque chose. Évidemment, on ne décompose pas du tout les notes, c'est pas du tout ça. C'est comme quand on lit, on ne décompose pas les lettres d'un mot. Mais on est quand même pris par quelque chose. pour que ça puisse avancer. Or, donc habituellement on pense d'abord ou on pense en même temps, et donc l'important c'est ce qui va arriver lorsque soudainement, eh bien, il sort autre chose que ce qui était prévu, non seulement autre chose, parce que ça, ça peut être un déplacement, avec du sens, avec de la pensée, etc. Oh, tiens, j'avais pas pensé à ça. Bon, c'est pas... Ce qui est important, ça ne se conduit pas non plus bien loin, mais il faut bien passer par là aussi. L'important, c'est qu'il sorte un néologisme. Il sorte un mot qui n'est pas prévu. Voilà. C'est-à-dire, il va y avoir un télescopage au niveau... Alors, ça peut être les voyelles, ça peut être les consonnes, ça peut être l'ensemble, c'est des syllabes. Quelque chose qui va faire que... Et dès que c'est sorti, évidemment, on est comme les juges, le juge au tribunal, on veut savoir ce qu'on a dit. Puisqu'on a dans l'idée que, évidemment, on doit savoir ce qu'on a dit, on doit savoir ce qu'on a fait. On a fait comme ça tout le monde. J'ai rien contre, c'est pas le problème, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la psychanalyse, elle dit, mais allez-y, lancez-vous là-dedans. Autrement dit, puisque vous pensez que vous savez ce que vous dites, si déjà vous pouvez le dire, ce qui n'est pas facile, hein, mais puisque vous pensez que vous savez ce que vous dites, allez-y, puis on verra bien ce qui va arriver. Ce qui est censé arriver, évidemment, on pense que c'est comprendre, mais ce qui est censé arriver, c'est qu'en usant comme ça du sens, la signification de la pensée des mots, il y a quelque chose, à un moment, l'usant, on va dire jusqu'à la corde, à un moment, il y a quelque chose d'autre qui va apparaître. Et on ne peut pas faire autrement. Il ne faut surtout pas écouter quelqu'un qui vous dit, vous avez dit ça, ça veut dire ça, puis vous étiez, puis etc., puis vous avez fait ça, puis vous voyez que l'ADN, ça vient directement là-dessus. Hein. L'ADN n'a rien à voir avec le réel, rien. C'est de l'imaginaire, ou du symbolique, mais quelque chose de très... C'est quelque chose qui permet d'identifier, évidemment, quelque chose de très précis. Alors, on peut l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais c'est quelque chose qui, scientifiquement, est identifiable et repérable. Ce dont j'essaie de parler, c'est qu'il y a autre chose que ça. Il y a autre chose. Donc, je ne suis pas du tout non plus contre les histoires d'ADN. Hein. Mais par exemple, où ça va plus, c'est que si vous identifiez le père d'un enfant à partir de l'ADN, vous êtes dans un, attends, ce qu'on peut appeler un délire scientifique, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche, le père. Le père, c'est pas le géniteur. Voilà. Ça peut arriver que ce soit le géniteur, ça peut arriver même assez souvent, mais on ne peut pas identifier le père avec le géniteur, c'est pas comme ça. Et la science est obligée de définir comme ça. Si vous avez des chromosomes comme ça, vous êtes un homme, si vous avez des chromosomes comme ça, vous êtes une femme, voilà. Débrouillez-vous avec. Voilà. C'est pas comme ça, en fait, qu'on est beaucoup plus tordu que ça. Tordu. Et notamment, celui, le supposé homme, il a un phallus, et il sait pas qu'en faire. Il est torturé par ce truc-là. Ah, si je dis ça aux féministes, c'est vrai que ça va un peu... Mais c'est vrai. Moi, je sais pas bien ce que c'est qu'une sexualité de femme. Parce que je ne suis pas une femme, hein. Il y a ce que je peux entendre, mais enfin, ça, c'est pas ça. Mais par contre, je sais que la sexualité est l'homme, parce que je suis un semblant d'homme, c'est pas du tout facile, c'est pas simple. Hein, il suffit que... Alors, je parle pas forcément de moi, mais il suffit qu'on veuille et puis ça marche pas. Ah, alors qu'est-ce qui marche pas? Alors, vous allez chez le sexo du coin, puis qui va vous dire, je sais pas... Mais oui, puis alors? C'est-à-dire que là, on corrige la corde du piano qui est désaccordée, et puis alors, il y en a une autre qui va se désaccorder après. Hein? Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est l'intérêt. Et bien le corps, dont j'essaie de parler, ça a à voir avec ça. Avec le fait que, et bien comme je reprends évidemment Lacan, il n'y a pas de rapport. Alors il ajoute sexuel, bon, dans le contexte actuel, il ne faut pas les raconter ça, hein. Il n'y a pas de rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, chez un être parlant, sauf dans le fantasme, hein, et c'est important le fantasme, hein, j'insiste bien, hein, il n'y a pas ce qui peut faire couple. Pour ça que c'est si compliqué entre un homme et une femme. Il n'y a pas ce qui peut faire couple. Et ça, on pourrait le prouver au niveau de la génétique aussi. Dans les homozygotes et les hétérozygotes. C'est un peu compliqué. Je ne veux pas partir là-dessus ce soir. Hein. Et un être parlant, c'est le fruit de la rencontre de chromosomes qui sont d'une certaine manière, chromosomes qui sont d'une autre, enfin, du moins les chromosomes sexuels. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas encore vu, véritablement, on peut peut-être le créer en laboratoire, mais un être parlant qui résulte de la rencontre de deux hommes ou bien de deux femmes. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des chromosomes qui soient de sexes différents. Alors, tout ça pour montrer que tout ce dont habituellement, comme ça, on se gausse facilement, voilà, etc., c'est pas simple du tout. Et c'est pas simple, il faut pas rigoler avec. Pour le moment, on est dans, depuis une semaine, là, ceux qui parlent quelque part à la télé, s'ils emploient un mot, un tout petit peu de travers, on est dans une pensée complètement fétichisée. Hein. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas dire le début du mot ou le mot qui risque de mettre en... Pourquoi ? Ben oui, c'est parce qu'on touche. On touche au fait que il y a, on va dire, entre l'homme et la femme, quelque chose qui ne va pas, qui est irréductiblement en souffrance. Donc, alors avec ça, chacun fait comme il peut, avec l'homme, avec son phallus, et puis, etc., puis la femme avec d'autres choses. Hein. Il n'y a pas d'un côté les bons, puis d'un côté les mauvais, ça, c'est un peu simpliste. Hein. Bon. Alors, je reviens à ce que je vais essayer de dire. Si on veut sortir du dualisme, parce que c'est ça le fond du problème, on est obligé d'être dans le dualisme, il n'y a pas d'autre solution. La vie, toute la vie sociale, familiale est organisée autour de ça, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qui va nous permettre d'évoluer dans le dualisme, c'est ce que le partenaire va introduire comme n'étant pas le répondant de ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui commence à apparaître comme étant étranger. Alors, la chose extraordinaire, c'est que cet étranger-là, que le partenaire va nous permettre de rencontrer, eh bien, il ne nous est pas si étranger que ça. Il ne nous est pas si étranger que ça, parce que si on peut le reconnaître comme étranger, c'est parce qu'il ne nous est pas si étranger que ça. Sinon, on ne pourrait pas le reconnaître. Sauf si on est complètement parano, alors à ce moment-là, c'est pas moi, c'est lui. Ah, ça c'est simple, là. Hein. Mais parano au sens du parano de chez parano, hein. C'est pas la petite réaction paranoïaque, hein. Ça, c'est... Bon. On a tous des petites réactions paranoïaques comme ça, je veux dire. Hein. C'est pas moi, c'est toi, etc. Bon. Hein, quand ça s'organise, quand ça se structure comme ça en tant que discours. Hein. Bon, donc l'idée, c'est que, par exemple, on a imaginé, pas au sens d'imaginariser, hein, on a imaginé un être tout puissant. Ben, ça peut être Dieu, ça a été Dieu. Non, ce sera peut-être, je ne sais pas quoi, moi, la justice, par exemple, puisqu'on est dans le contexte actuel. Hein. Ou autre chose, je ne sais pas quoi, moi, tu voudras. Hein. Donc, on a imaginé, mais c'est nous qui l'avons imaginé comme tel. C'est pas pour autant qu'il existe. Mais ça fonctionne parce qu'on l'imagine. Et du fait qu'on a un certain nombre à l'avoir imaginé, on a pu définir des règles de fonctionnement qui sont définies dans des codes particulier. Et il faut bien des codes, puisque justement, l'être parlant, je ne parle pas humain, je ne sais pas bien ce que ça veut dire humain, hein. Quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas dire que l'humanité est tellement humaine. Hein. Eh bien, quand on voit comment ce qui se passe, on se rend bien compte quand même que chacun est paumé, quoi. Chacun est perdu. Si on se réfère en permanence à des lois, à des choses, à des trucs, au fait qu'il y a eu en telle année ça, et que maintenant c'est comme ça, c'est bien qu'on est perdu. Puisque ça se trouve, dans 30 ans, on va faire une autre loi. Hein? Et alors, nous, évidemment, comme on est un peu limité, quoi, c'est-à-dire qu'on imagine, on pense que c'est un progrès. On pense qu'il y a des progrès. Il y a eu ça, et après, c'est pas faux. C'est pas du tout sûr qu'il y ait des progrès. Psychiquement, c'est pas vrai. Psychiquement, il ne peut pas y avoir de progrès social. Le psychique, c'est pas du tout le social. C'est loin par an. Par contre, ça permet, psychiquement, de pouvoir rentrer plus facilement dans l'organisation sociale. Ça, c'est sûr, et familial. Hein? Parce qu'on est moins gêné par toutes sortes de pensées, justement, ou de révoltes, ou de tout ce qu'on voit. Hein? Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que on n'a pas tellement le choix. On est déterminé, premier point, une chose. Comme il y a quelque chose en nous qui n'est pas très d'accord avec ça, on appelle ça le désir. Le désir, hein, désir X, comme dit Lacan, pas le désir inconscient. Hein. Le désir inconscient, c'est le fait qu'on est déterminé. Hein. Pas pareil. On parle de désir pour savoir de quoi on parle. Hein. Le désir X, c'est l'insaisissable. Hein. Chose qui nous meurt, on ne sait pas trop quoi, pourquoi. Alors, du fait qu'il y a ce désir inconscient qui fait qu'on est sur des rails, hein, ben, il y a des moments, parce que ça ne peut pas aller, quoi. On ne peut pas obéir comme ça en permanence. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on est révolté qu'on n'est pas en train d'obéir. Il ne faut pas croire que c'est si simple que ça. Parce que la révolte ou l'obéissance, c'est pareil. C'est les deux faces de. C'est le recto et le verso de la même chose, évidemment. Hein? Pour rentrer dans quelque chose et on pourrait dire l'incorporer, ce n'est pas du tout. Il ramène, hein? C'est pas du tout ça. Ce n'est pas non plus du tout le refuser. Hein? C'est compliqué, là, hein? Ce dont on parle. C'est pour ça que je parle du psychisme, là. Psychisme. C'est encore un mot qu'il faut définir. La psyché, on ne sait pas bien ce que c'est. Ben, disons. Ce qui touche à cette organisation trine, réelle, imaginaire, symbolique, qui peut mettre en direction de l'inconscient. Voilà. En sachant que l'inconscient ne sait pas ce que c'est. Bon. Alors, et je vais m'arrêter là-dessus. Il est évident que le développement de la science, qui nous intéresse tellement, et c'est normal, auquel on est suspendu, mais alors vraiment comme des consommateurs, des drogués de la science. Alors, on pense qu'on va tout expliquer. Hein. Bon, eh bien, il se fait dans un certain champ, et que ce champ-là, écrivez-le comme vous voulez, hein, ce champ, eh bien, il vient complètement occulter ce dont j'essaie de parler. C'est obligé. Comme dit Lacan, la science c'est un dieu lire. La science c'est Dieu, il n'y a pas besoin d'opposer comme en tant qu'athée, Dieu, la science, ça ne veut strictement rien dire. C'est la même position subjective. Exactement la même. On ne dit pas la même chose, mais on est dans la même position. Alors qu'on soit pour ou contre, c'est pareil. Hein? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut que faire que? Bon. Eh bien. Le 29 novembre 1787, à Prague, a lieu la première du Don Giovanni de Mozart. Vous savez comment ça commence, le Don Giovanni de Mozart? Une tentative de viol et le meurtre du père. Ça commence comme ça. Et avec ça, on fait un opéra. Qu'est-ce qui est l'intérêt de l'opéra du Don Giovanni? C'est pas ce qu'on nous raconte. C'est pas que le dissoluto punito va être... puni dans les enfers. Pas du tout ça pour moi. C'est qu'il va y avoir dans cet opéra, je vais y revenir certainement hein, plusieurs fois, il va y avoir cet opéra, cette chose extraordinaire, qu'il y a deux actes. Hein. Bon. Un premier acte où Don Juan, ben évidemment c'est un libertin, c'est pas un libertin, mais enfin, disons ça comme ça, j'ai pas le temps de dire beaucoup plus hein, pour le moment. C'est quelqu'un qui prend la vie comme ça, à bras le corps, comme on dit. Hein. Bon, d'une part, et le deuxième acte, c'est qu'on peut appeler les victimes qui sont des femmes, donc Doña Ana, Zerline, et puis, comment elle s'appelle, la troisième, ça va me revenir, hein. Doña Ana, qui est une création de Mozart dans cet opéra. Il faut voir l'importance qu'elle a. Comment est-ce qu'elles vont sortir du statut de victime ? Eh bien, c'est Mozart qui va nous apprendre que pour sortir, ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en trouvant du sens. Ce n'est pas comme ça qu'on sort de ça. Vous voyez, évidemment, c'est l'actualité. Hein. Je n'ai rien contre ce qui se passe, je suis plutôt là. Moi, j'essaie de. Avec tout ce qu'on a pu voir à la télé qui nous fascine, qui nous pétrifie, etc. Ben c'est qu'ils vont trouver, Mozart va trouver lui, parce que c'est Mozart dont il s'agit, évidemment, dans cet opéra. Hein. C'est 5 années avant qu'il meure, même pas, 4 années avant qu'il meure. Hein. Son père vient de mourir. Hein. Don Giovanni, c'est la rencontre de la mort. Voilà. C'est pas la rencontre de la punition. Bien sûr, c'est dans le christianisme, évidemment, la mort, c'est ce que je veux au ciel ou ce que je veux en enfer. Quoi, hein. Bon. Mais c'est la rencontre de la mort, qui apparaît d'ailleurs tout à la fin. Hein, dans le dernier sextuor, il y a six voix qui chantent en même temps, pendant 4 mesures, morte. Dans 4 mesures, à l'unisson. Eh bien, cette rencontre de la mort, elle advient pas du tout dans le. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Pas du tout dans l'angoisse. Elle advient du fait que, notamment, Zerline, Doña Ana, et puis l'autre, j'arrive pas à retrouver son nom, mais ça va revenir, ont pu trouver, chanter, donc c'est Mozart derrière tout ça, quelque chose dans des arias d'extraordinairement, je dirais, flamboyant, quelque chose qui touche à la vie, quelque chose qui touche à cette dimension du corps dont je parle. Et ça se termine par des vocalises. Des vocalises sur le A. Et le deuxième acte, autant dans le premier acte, elles veulent se venger, évidemment, tout ça ne part pas, hein. Bon. Autant dans le deuxième acte, ben, elles ne sont plus du tout là-dedans. Ce qui les intéresse, c'est de s'arracher à quoi ? Ce n'est pas le démonisme de Don Juan, c'est le leur. Et que Don Juan, de par le fait qu'il les a courtisés, qu'il leur a fait toutes sortes de choses, il a réveillé en elles leur propre démonisme. Évidemment, parce qu'on n'est pas tout blanc ou tout noir. On est compliqué. Et le deuxième acte, la musique de Mozart, ce à quoi elle conduit, c'est au fait que elles vont pouvoir chanter ça et se réconcilier avec ça. Et du coup, il n'y a plus de vengeance. Elles n'en ont plus rien à faire. Et Don Juan va se retrouver tout seul. Et tout à la fin, ça se termine par le fait qu'il est seul. Face à quoi ? Ben, face à la mort. Et là, c'est son destin. Lui, qu'est-ce qu'il en fait ? Autrement dit, c'est pas ce qu'il en fait dans le livret. Parce que le livret nous conduit toujours à la punition. C'est qu'est-ce qu'on entend dans ce final ? Enfin, dans la rencontre du commandeur, dans la voix de Don Juan. C'est quelque chose qui, un jour, moi, m'a réveillé. Voilà, tu m'as la quête là-dessus.